Micro Méga,
Patrick Chompré,
Christian Petit.
Micro Méga suite, je le rappelle tout à l'heure, notre invité scientifique multifacette sera Jean Jouzel, glaciologue, climatologue, dont on va découvrir des facettes inattendues. Donc, dans cette demi-heure, la maîtrise du froid, c'est la séquence il y a 100 ans. Et puis, bienvenue sur la Terre, un monde où les parasites et picassiettes de tout poil sont partout, avec les auteurs du livre qui sort ces jours-ci, La malédiction du cloporte.
Micro Méga.
Mais tout de suite, les vampires existent-ils vraiment scientifiquement ? Twilight, c'est un film sorti en France le 7 janvier dernier. Il raconte l'histoire de Bella Sawan qui a 17 ans et qui tombe amoureuse d'un énigmatique et pâle Edward Cullen dont elle va découvrir plus tard qu'il est un vampire. Un sujet qui vous inspire et sur lequel vous nous apprenez des choses, Jean-Yves Casga.
Eh bien Patrick, si vous ne croyez pas aux légendes, les travaux du Canadien David Dolphin, il est prof de chimie à l'université de Vancouver en Colombie-Britannique, ces travaux risquent de vous faire changer d'avis. Alors lui, il travaille sur la porphyrie, c'est une maladie rarissime, génétique, et dont les conséquences sont dramatiques, mais souvent étonnantes. L'exposition au moindre rayon de soleil provoquent des lésions de la peau telles qu'elles peuvent défigurer un individu, détruire son nez, raidir ses lèvres et ses gencives au point de rendre ses dents proéminentes et écraser ses doigts qui apparaissent alors crochus. Ça vous rappelle quelque chose déjà. De plus, les malheureux qui sont atteints par cette maladie sont envahis par une pilosité débordante. Et l'un des traitements qui peut les soulager consiste en injection de pigments rouges du sang. Et comme vous savez, pour obtenir le même résultat, il suffit de boire une grosse quantité de sang. Bref, vous avez reconnu la description pour David Dolphin. Les fameux vampires n'appartiennent pas qu'au folklore. Ils ont existé et ils existent encore. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'une maladie. Heureusement, c'est rare, rassurez-vous, mais qui ne laisse pas de surprendre. La tradition, par exemple, suggère que ceux qui étaient mordus par un vampire le devenaient également. Eh bien, il est vraisemblable que certains îlots parfaitement localisés de cette maladie héréditaire, la Transylvanie de Dracula, par exemple, se soient constitués à l'époque où les voyages étaient plus rares, évidemment, et la consanguinité beaucoup plus répandue. Dans ces conditions, l'hypothèse d'une victime de la porphyrie, transmettant par morsure son affection à une personne génétiquement prédisposée, devient tout à fait plausible. Une autre croyance très connue, l'ail, il éloignerait les vampires. Eh bien, il se trouve que le constituant principal de l'ail, c'est le disulfide dialkylique, qui détruit les pigments rouges du sang. Or, cette destruction est la caractéristique essentielle de la porphyrie. Ce qui suggère donc, c'est ce qu'explique le chimiste canadien David Dolphin, que l'ail puisse aggraver l'état du patient et en conséquence éloigner les vampires qui n'ont aucune raison de vouloir se faire du mal. Mais le pire, c'est qu'à peine cette découverte publiée aux États-Unis, les quelques 50 000 personnes qui ne sont pas nécessairement, Dieu merci, toutes atteintes de cette forme aiguë d'une maladie qui en compte 6 de mémoire et souvent beaucoup moins grave que ce que je vous décris évidemment, ces gens-là, donc qui essaient évidemment de vivre normalement parmi la population, mais dès qu'il y a eu la publication, ils ont été immédiatement mis en quarantaine. L'horreur de la ségrégation. Méfiance des commerçants, évidemment les amis qui les laissaient tomber, et ni les médecins, ni la Fondation américaine pour la porphyrie n'a pu faire entendre raison et aux amis et aux commerçants, à tout l'entourage des malheureux atteints de cette maladie. En clair, rien de nouveau sous le soleil. Non seulement il n'y a pas de fumée sans feu, mais les mythes ont la vie dure, et la preuve, et les hommes la dent, ce qui n'excuse rien quand même, Patrick.
Micro Micro-méga sur RFI, dans l'actualité, la sortie du livre La malédiction du cloporte aux éditions Taillandier, livre signé Olivier Hertel et Christine Cousteau. On en parle avec vous, Caroline, et on découvre que l'on vit dans un monde de parasites.
Ben oui, nous sommes tous des parasites ou des parasités, c'est selon, parfois même les deux en même temps. Bienvenue dans ce monde terrifiant, le nôtre, où les bactéries parasites peuvent transformer les mâles en femelles, s'introduire jusque dans le cerveau de leur proie pour les manipuler et inventer des nanoseringues, on les entend, pour pénétrer dans leurs cellules. Ce n'est pas de la science-fiction, mais des histoires très quotidiennes de parasites, telles qu'elles nous sont racontées par Olivier Hertel, journaliste à Science et Avenir, et Christine Cousteau, biologiste, qui tente d'abord de définir exactement ce que c'est qu'un parasite, et ce n'est pas juste un vilain profiteur ou un simple pique-assiette.
La notion de parasitisme, au départ, elle peut sembler simple, puisque un parasite, c'est un organisme qui vit dans ou sur un autre organisme et à ses dépens. Donc les exemples d'école, on va dire, c'est par exemple le plasmodium pour le paludisme, le ver solitaire. Mais en fait, on s'aperçoit que cette notion de parasitisme a des limites très floues, c'est-à-dire qu'après, on a tous les intermédiaires. Il y a également des exceptions, comme par exemple le coucou, qui est un parasite, mais qui ne vit ni dans ni sur un autre.
On va y venir à ce
moment-là. Et puis, il y a tous les cas où on est en transition entre un vrai parasite, c'est-à-dire qui vit aux dépens de son hôte, et ce qu'on appelle un mutualiste, c'est-à-dire qui vit peut-être dans ou sur un hôte, mais non pas à ses dépens, mais au contraire, qui donne un avantage à son hôte. Évidemment, il y a tous les intermédiaires, il y a toutes les originalités, je dirais, toutes les adaptations les plus folles dans ces interactions entre parasites au sens large et hôte.
Alors, on va peut-être donner quelques exemples de ces parasites, des histoires de parasites. Vous commencez par une drôle d'histoire, on l'a évoquée tout à l'heure, celui d'un oiseau. On sait que le coucou dépose ses œufs dans les nids des autres. Voilà, en gros, c'est ça qu'on sait. Mais en fait, l'affaire est beaucoup plus grave que ça, si j'ose dire, Olivier Hertel.
C'est pas un modèle de parent, hein, le coucou. Donc, c'est assez étonnant parce que quand on pense à parasites, on a plutôt tendance à penser à des petits organismes microscopiques. Alors là, c'est un oiseau dont la particularité est simple, c'est que les femelles pondent leurs œufs dans le nid d'une autre espèce. Par exemple, le coucou va pondre dans le nid d'une rousserolle. Et ce qu'il fait, c'est assez impressionnant parce qu'il ne se contente pas de pondre dans le nid, il imite aussi les œufs de l'espèce dans le nid de laquelle il va pondre. Par exemple, si c'est des œufs qui sont un peu tachetés, un peu verts, il va pondre des œufs tachetés et un peu verts. Mais il fait encore mieux que ça. Si dans le nid en question qu'il doit parasiter, il y a déjà 5 œufs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en prendre un, il va le gober ou le jeter, et il va mettre le sien. Donc au total, il y aura encore 5 œufs. Mais ça ne s'arrête pas là encore, ça continue. C'est-à-dire que le coucou, c'est vraiment un être abominable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les œufs vont se développer, c'est le coucou qui va naître le premier. Et la première chose qu'il va faire, c'est de se débarrasser de ses demi-frères, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va tout simplement charger les œufs sur ses épaules, l'un après l'autre, et il va les balancer hors du nid. Pour être sûr, finalement, d'être le seul à bénéficier des soins des parents.
Et donc ce meurtrier là, ce coucou qui vient d'éclore avant les autres et qui a balancé tous ses frères hors du nid, il va en plus, vous le décrivez Olivier Hertel, épuiser ses pauvres parents adoptifs.
Il est abominable jusqu'au bout. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est qu'il se retrouve donc tout seul dans un nid. Il est plus gros que ses parents adoptifs. Et ce qu'il a besoin, lui, c'est d'être nourri et d'être bien nourri. Alors, plutôt que d'imiter simplement le cri de ses demi-frères qu'il a déjà éjectés, hein, je vous rappelle, il va imiter le bruit de la couvée. C'est-à-dire qu'il va faire un piaillement qui ressemble au bruit qu'émettraient 5 oisillons dans le même nid. Donc du coup, les parents sont stimulés, ils ont l'impression d'avoir affaire à une vraie couvée avec 5 petits à nourrir, et donc ils vont se démener pour arriver à nourrir correctement cet oiseau qui finalement se retrouve tout seul et qui bénéficie de cette manne que lui apportent ses parents. Et alors, le but, c'est quand même d'arriver à bien gérer cette...
À les épuiser, mais pas trop.
Il ne faut pas les épuiser trop. Il faut qu'ils continuent à le nourrir jusqu'à ce qu'il soit autonome et qu'il puisse reprendre son autonomie et s'envoler tout seul. Mais ça va encore plus loin. C'est qu'on s'est rendu compte que certaines espèces de coucous pouvaient mettre en place des mesures de représailles si jamais leurs petits n'étaient pas pris en charge par les parents adoptifs. Les chercheurs parlent de tactiques mafieuses. C'est-à-dire que le coucou pond son œuf. Si, mettons, c'est une pie notamment, hein, si la pie se rend compte qu'on a pondu un œuf qui n'est pas le sien, qu'on l'a mis dans son nid, elle va vouloir le détruire. Elle le détruit, mettons. Là, le coucou revient, il voit que son œuf a été détruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit toute la couvée de la pie. Donc du coup, la pie est obligée de refaire un nid, de repondre ses œufs. Et cette fois, si on lui remet un œuf de coucou dans le nid, elle ne détruit plus les œufs. En fait, la mesure de représailles, elle est très simple. Si jamais tu touches à mon œuf, je te détruis toute ta couvée. Donc tu as intérêt à laisser mon œuf se développer tranquillement. Et en fait, la pie ne peut rien faire. Finalement, effectivement, s'est rendu compte qu'il y avait un apprentissage. La pie laisse tomber, elle garde l'œuf de coucou, elle ne le détruit pas.
C'est l'omerta, elle ne dira rien.
C'est la mafia, c'est la mafia du coucou, vraiment.
Ils étaient quatre dans le nid, et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid, ouh. Il n'était plus que trois dans le nid, et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid, oh. Il n'était plus que deux dans le nid, et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid, oh. Il n'était plus que un dans le nid, et le petit dit, ah.
Autre exemple de parasite. Alors là, il y a tout un chapitre, Christine Cousteau et Olivier Hertel, dans cette malédiction du cloporte. Il y a tout un chapitre qui nous raconte des histoires de manipulation, parce qu'on a envie de dire c'est les parasites ou l'art de manipuler.
Absolument. Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui est très courant et qui se produit beaucoup chez les parasites qui ont plusieurs hôtes. Parce que la problématique pour un parasite qui a plusieurs hôtes, c'est qu'il faut arriver à passer d'un hôte au suivant. Et c'est souvent dans ce contexte-là qu'il y a des phénomènes de manipulation pour favoriser justement ce passage entre deux hôtes.
Par exemple ?
Alors par exemple, un exemple bien connu, c'est celui de la douve du foie. Donc la douve, c'est un ver parasite, et alors cette douve du foie accomplit son cycle. Elle a trois hôtes. Donc le premier hôte, c'est un escargot, le second hôte, c'est une fourmi, et le troisième, c'est un mouton. Donc le passage de l'escargot à la fourmi est assez simple, puisque les stades larvaires qui sont émis par l'escargot sont ingérés par les fourmis par accident. Mais par contre, on comprend bien que le passage de la fourmi au mouton, là, c'est un petit peu plus délicat, parce qu'a priori, il n'y a pas de contact particulier entre une fourmi et un mouton. Donc là, ce qui se passe, c'est que la fourmi qui ingère en fait ces larves de douve va avoir son comportement qui est manipulé. Donc il y a une des larves qui vient se loger dans le cerveau
de la fourmi.
Et de ce fait-là, donc, ça va changer le comportement de la fourmi. Et donc, la fourmi, au lieu d'avoir un comportement normal, de vivre dans la fourmilière, elle va grimper au sommet d'une feuille et elle va rester accrochée à cette feuille. Et donc, on comprend bien que là, ça va augmenter ses chances d'être broutée en même temps que l'herbe par un mouton.
C'est-à-dire que la douve du foie, ce ver, va se loger dans le petit cerveau ou dans les commandes neurologiques de la fourmi pour l'obliger à aller monter et à attendre sur une herbe d'être mangée par un mouton.
Voilà, le fait qu'il y ait une des larves qui viennent se mettre, la première qui rentre en fait va aller se loger dans le cerveau, et cette localisation, ben évidemment, ça va provoquer des perturbations, pas n'importe lesquelles, des perturbations du comportement qui vont favoriser en fait le passage du deuxième hôte au troisième.
Donc une fois que le mouton a aperçu la fourmi perchée sur son herbe qui lui fait coucou, mange-moi,
là,
qu'est-ce qui se passe?
Non, ben le mouton, en fait, s'il ingère l'herbe contaminée par la fourmi, une fois que c'est dans son intestin, son tube digestif, la fourmi va être digérée, mais pas le parasite. C'est-à-dire que le parasite va, lui, se transformer, devenir adulte, et les adultes vont pondre des œufs dans l'intestin du mouton. Les œufs vont rejoindre le sol, et là, ils vont éclore, et là, ce sont les escargots qui vont être contaminés, et on recommence, donc le cycle recommence comme ça.
Le cycle infernal de la manipulation.
Voilà. Tout cela est atroce, c'est donc Micro-Méga sur RFI, et la manipulation existe donc à l'état naturel. Hein, quelle déception, Caroline. Autre exemple, malheureusement bien connu, mortel, le paludisme.
Bah oui, on n'y pense pas a priori quand on pense parasite, et pourtant ce fléau est aussi une sordide affaire de manipulation, cette fois-ci celle du moustique sous influence de son parasite, Olivier Hertel.
Oui, le cas du paludisme est assez frappant. Bon, on sait que c'est une maladie qui a des conséquences abominables, notamment en Afrique, qui tue un enfant toutes les 30 secondes. Enfin, c'est vraiment un très très gros problème, et c'est un très très gros problème pour lutter contre cette maladie, parce que on a deux composantes essentielles. On a d'abord le moustique qui pique et qui transmet le paludisme, le parasite à l'homme. Le moustique, c'est l'anophèle, on connaît ce moustique-là. Et le problème, c'est que ce moustique, lui, est de plus en plus résistant aux insecticides.
Et c'est ce moustique qui transporte le parasite.
C'est lui qui transporte le parasite qu'on appelle le plasmodium. Voilà. Ce parasite s'appelle le plasmodium. Le moustique, il se reproduit dans le moustique. Et ensuite, le moustique pique l'homme et à ce moment-là, il le transmet à l'homme. Donc le premier problème, c'est que le moustique est difficile à combattre puisqu'il devient résistant aux insecticides. On a traité avec du DDT notamment et il devient résistant, donc on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et le deuxième problème, c'est que le parasite lui-même est un parasite qui n'arrête pas de changer de forme et contre lequel donc il est très difficile de trouver des médicaments qui ciblent ce parasite et ou même un vaccin qui permettrait de s'en débarrasser. Donc ça, c'est déjà deux problèmes importants pour se débarrasser de ce parasite. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que le parasite, le plasmodium, a optimisé sa vie entre ses deux hôtes. Il manipule le comportement du moustique pour pouvoir passer soit dans le moustique, soit chez l'homme.
Parce que ce parasite, pour vivre, il a besoin et du moustique,
voilà,
et de l'homme.
Il a besoin de passer par le moustique, notamment pour se reproduire, et il va passer chez l'homme pour se développer, se multiplier, etc. Et à un moment donné, il va falloir que le moustique revienne piquer l'homme pour récupérer le parasite dans le sang de l'homme, et après, il va encore continuer son cycle, c'est-à-dire qu'il va se reproduire encore dans le moustique. Alors, ce que fait le parasite, c'est absolument incroyable, c'est qu'une fois qu'il est dans l'homme, quand il a atteint le stade où il doit être repris en charge par le moustique, il manipule probablement l'odeur de l'homme. On ne sait pas si c'est l'odeur de l'homme ou si c'est lui qui émet une odeur particulière. Mais en fait, il manipule l'odeur de l'hôte, donc de l'homme, pour attirer le moustique, pour que le moustique vienne piquer l'homme. Et à ce moment-là, hop, pompe un peu de sang, et dans le sang, il y aura probablement le parasite. Ça, c'est la première étape. Quand il est dans le moustique, il faut qu'il fasse la même chose, c'est qu'il passe du moustique à l'homme. Donc quand il arrive au stade où il doit passer chez l'homme, là, il va manipuler le comportement piqueur du moustique. C'est-à-dire qu'au moment où il doit passer, il va augmenter le comportement de piqûre. C'est-à-dire que le moustique va piquer beaucoup plus que quand il n'a pas le parasite ou quand le parasite n'est pas mûr pour passer chez l'homme. Donc en gros, quand le parasite n'est pas prêt à passer chez l'homme, il va plutôt freiner le comportement piqueur du moustique. On comprend très facilement, si le moustique il pique un homme et que l'homme s'en rencontre, il écrase le moustique et c'est tout perdu pour le parasite. Ah oui, parce que du coup il s'est fait... Par contre, si au moment où il est prêt à passer, il augmente le comportement piqueur et donc il augmente les chances de transmission dans son prochain hôte, c'est-à-dire l'homme. Et là, à ce moment-là, il va plutôt faire en sorte que le comportement piqueur augmente la nuit, c'est-à-dire quand l'homme dort et a moins de chances de se réveiller pour écraser le moustique qui est en train de le piquer sur le bras.
Quelle sophistication, cette stratégie de manipulation.
Incroyablement sophistiquée, mais dans le livre, on parle d'autres exemples qui sont aussi incroyablement sophistiqués. Je pense notamment aux salmonelles et leur technique d'inoculation de leur toxine qui est assez spectaculaire aussi.
On a encore une histoire horrible pour terminer, Caroline, cette histoire de salmonelles.
Bah oui, vous n'imaginez pas, Patrick, ce dont elles sont capables, les affreuses salmonelles. Alors en fait, elles disposent d'une arme imparable, des nano-seringues, des minuscules seringues bourrées de toxines qui empoisonnent littéralement les cellules et qui ensuite, avec une autre nouvelle batterie de nano-seringues, achèvent finalement ces malheureuses cellules. Alors plus sophistiquées que sa tumeur, bah justement, c'est un peu fait pour ça. C'est l'art de la guerre, d'où le vocabulaire franchement guerrier, adopté dans leur ouvrage et dans leurs histoires de parasites par Christine Cousteau et Olivier Hertel, qui n'hésitent pas à parler de course aux armements, de guerre biologique, d'armes de destruction massive et j'en passe.
On ne fait que raconter la vérité parce que c'est exactement ce qui se passe. La vie des parasites et des hôtes, c'est vraiment une sorte de guerre perpétuelle. C'est à celui qui prendra l'avantage sur l'hôte. C'est pour ça qu'à un moment on parle de course aux armements, ça rappelle la guerre froide, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a souvent le parasite qui trouve une arme pour pouvoir parasiter son hôte, mais l'hôte, lui, il n'a pas envie de mourir, donc il se défend, donc il va trouver une nouvelle arme pour se défendre contre le parasite, mais du coup, le parasite va encore réagir et trouver encore une arme plus puissante pour vaincre les défenses de l'hôte, et ainsi de suite, et ça peut continuer comme ça. Toute l'existence d'une espèce, de deux espèces, les relations entre ces deux organismes est basée sur cette guerre perpétuelle.
Alors, autre chapitre assez intéressant à propos des parasites, c'est la guerre des sexes. Alors ça fait un peu peur parce que parmi toutes les stratégies adoptées par ces parasites, eh ben, y en a qui sont prêts à féminiser ou à castrer des populations entières pour arriver à leur fin, pour arriver à parasiter.
Oui, alors en particulier, on a le cas d'une bactérie qui a un nom un peu barbare qui s'appelle Wolbachia et qui a quelques problèmes de transmission entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle ne peut se transmettre quand elle est dans un hôte, souvent des insectes ou des crustacés ou des mollusques, enfin souvent des insectes. Elle ne peut se transmettre que de femelle en femelle. C'est-à-dire la mère va pondre et la bactérie ne se retrouvera que dans sa descendance femelle. Or, forcément, les organismes, les animaux ont tendance à pondre des mâles et des femelles, généralement. Et donc, du coup, pour Wolbachia, quand elle se trouve chez un mâle, pour elle, c'est une impasse. Il n'y a pas d'issue. Elle ne pourra pas survivre et ça n'a aucun intérêt.
Parce qu'à chaque fois, rappelons que ce sont des histoires de survie. C'est pour que ces parasites puissent vivre et survivre. Voilà, ce sont des stratégies de survie.
Tous les organismes vivants ont un peu le même objectif. Hein, c'est survivre. Voilà. Ou vivre. Ça dépend comment on voit les choses. Et donc, dans le cas de Wolbachia, alors, un exemple qui est assez frappant, c'est quand elle infeste une coccinelle. Donc, la coccinelle va pondre des œufs qui contiendront des mâles et des femelles. Si Wolbachia se trouve dans un œuf mâle, elle va tuer l'œuf, elle va tuer le mâle dans l'œuf. Par contre, les femelles qui contiennent aussi Wolbachia, donc les œufs qui sont juste à côté, ces œufs-là vont survivre. Et quand ils vont éclore, ils vont se trouver face à un ensemble d'œufs qui n'ont pas éclos et qui sont les frères, finalement, de ces petites coccinelles qui viennent de naître, ce sont leurs frères. Et c'est aussi, à ce moment-là, leur premier repas, puisque ces œufs sont morts. Les femelles qui viennent de naître sont déjà affamées et elles se trouvent face à un garde-manger qui a été en gros fabriqué pour elles par Wolbachia et elles vont se nourrir de leurs propres frères tués par cette bactérie. Et alors c'est important parce qu'au tout début de la vie des coccinelles, le fait d'avoir un repas comme ça très très tôt, ça leur permet d'avoir une meilleure survie. Le temps de retrouver leur première proie, elles partent déjà à la chasse avec le ventre plein.
C'est-à-dire que les parasites ont tout fait pour que ces femelles-là
Les parasites se sont débrouillés pour que ces femelles survivent et même qu'elles survivent mieux, ce qui est assez rare, que des femelles qui n'auraient pas été parasitées. Généralement, quand on est parasité, on va un petit peu moins bien. Mais dans ce cas-là, c'est un peu différent. C'est la femelle parasitée, finalement, qui survit mieux que si elle n'était pas parasitée, parce qu'elle aura fait un premier repas tout de suite après la naissance et donc elle partira à la chasse le ventre plein. Ça sera pour elle plus facile de survivre. Donc c'est un cas assez spectaculaire et Wolbachia ne se contente pas de parasiter la coccinelle, elle parasite aussi le cloporte et là on a toujours le même problème. Donc le cloporte, c'est le titre du livre, La malédiction du cloporte. C'est tout simplement encore Wolbachia, cette bactérie qui se retrouve dans la même impasse, c'est-à-dire si elle est chez un mâle, elle ne peut pas survivre. Donc là, plutôt que de tuer le mâle, elle a trouvé autre chose, elle le transforme en femelle, tout simplement. Mais elle transforme le mâle en femelle, mais c'est pas simplement dans les formes, ça devient une véritable femelle. C'est-à-dire une femelle qui est capable de s'accoupler, de se reproduire avec d'autres mâles. Donc du coup, on a dans les populations de cloportes, que vous avez dans vos jardins, des vraies femelles, quelques vrais mâles aussi, et puis des mâles qui ont été transformés en femelles et qui potentiellement se font séduire par d'autres mâles et ont des rapports avec ces fausses femelles, donc ces mâles travestis, et produisent encore une descendance qui va transmettre la fameuse bactérie Wolbachia. Donc là, on a soit elle tue les mâles parce que ça lui convient pas, c'est le cas de la coccinelle, soit carrément elle transforme les mâles en femelles, ce qui l'arrange bien, et là c'est le cas du cloporte.
Des coccinelles sexuelle dans votre jardin, quelle vision ça vous donne de la vie, Caroline, tout
la
ça.
La fameuse malédiction du cloporte qui donne son titre à ce livre assassin, disons que ça nous prouve simplement qu'on n'est pas les seuls, nous les hommes, à manipuler, à inventer des armes de destruction massive ou biologique. Je ne sais pas si ça rassure, mais c'est passionnant et ça pose aussi de drôles de questions d'identité. Suis-je parasite ou parasité ou les deux? Enfin, la malédiction du cloporte de Christine Cousteau et Olivier Hertel, c'est à lire aux éditions Taillandier.
Et merci à Flora pour les chansons. On se calme. Retour en arrière. Voici un siècle, le magazine hebdomadaire La Nature s'intéressait au froid dans la vie moderne. La maîtrise du froid qui allait tout changer dans notre vie. Et cette revue consacrait un article aux merveilleux effets du froid. Et Christian Sautil nous en rappelle l'essentiel avec le ton de l'époque.
Au cours des derniers siècles, on n'a guère utilisé la glace que pour rafraîchir des breuvages ou fabriquer des pains de crème glacée. Et maintenant, au lendemain du premier congrès international du froid, qui a réuni des praticiens représentant 42 États, dont plusieurs situés au bout du monde, il semble que le froid sert à tout. Ses applications sont innombrables et il faut dire qu'il joue déjà chez certaines nations un rôle économique considérable. À Londres, où viennent converger les produits frigorifiés du monde entier, vous avez l'embarras du choix s'il vous prend la fantaisie de composer un repas qu'avec des denrées à l'état frais provenant de pays étrangers distants de plusieurs milliers de kilomètres. Vous pouvez inscrire sur votre menu œuf à la coque d'Australie, saumon du Canada et langouste de Mauritanie, bœuf de La Plata, mouton et lapin d'Australie, lait, fromage, bière de Buenos Aires. Pour le dessert, vous avez les bananes de la Jamaïque ou de Costa Rica, les poires et les pêches et les brouillons du Cap de Bonne-Espérance. La conservation du poisson frais par le froid n'est pas encore parfaite et cependant les transports du poisson frigorifié ont de singulières conséquences économiques. Ainsi, la ville de Bâle, en Suisse, point de jonction de voies ferrées aboutissant à l'océan, à la Manche, à la mer du Nord, à la Baltique, à l'Adriatique, est un des plus importants marchés de l'Europe pour la marée fraîche. Des expéditions de poissons rayonnent de Bâle dans tous les pays voisins. L'application du froid industriel au transport et à la conservation des fruits est aussi à l'ordre du jour et est en voie de progrès. Le goût et l'arôme de certaines espèces ne sont pas altérés. Des pommes peuvent se conserver pendant 2 ans, des poires pendant 4 ou 5 mois, des prunes pendant 2 mois et demi, en soignant particulièrement les emballages. Il n'est plus besoin de compter avec les saisons pour se procurer le luxe raffiné de jolies fleurs qui sont à la maison, le plaisir de la vue et de l'odorat. Le froid accomplit un nouveau prodige, non plus seulement en gardant intacte une matière morte et inanimée, mais en agissant sur la matière vivante, en suspendant les lois de la vie végétative. L'horticulteur qui a le froid à son service prolonge le sommeil organique que la plante subit naturellement pendant la durée de l'hiver. La chambre frigorifique crée un hiver artificiel qui retarde la génération d'une nouvelle vie. Désormais, un horticulteur peut recevoir un ordre de livraison de 1000 muguets, par exemple, à date fixe pour juin, juillet, août, avec la certitude de l'exécuter fidèlement.
Micro-méga, retrouvez-nous sur www.rfi.fr. Un petit peu de propulsion spatio-temporelle, on se retrouve juste après le journal sur RFI.